Bienvenue à tous sur le Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur de relations entre l'Afrique du Nord et le Sahel.
Ah oui, une région fascinante.
Imaginez, un héritage qui remonte aux dynasties marocaines, aux caravanes chargées d'épices et d'or qui traversaient le Sahara sur les anciennes routes du sel. C'est passionnant.
Absolument. C'est une histoire riche et complexe qui a vraiment façonné les liens culturels et religieux entre ces deux régions. Si on prend l'exemple de Sijil Massa à Marrakech Fès,
Oui.
ces villes ont rayonné à travers le sel, notamment grâce à la diffusion de l'islam soufi par les érudits et les commerçants qui accompagnaient les caravanes.
C'est incroyable de voir comment ces échanges ont marqué la région. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Le colonialisme a bouleversé ces équilibres. Et aujourd'hui, on observe un jeu d'alliances complexes, avec des acteurs comme le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, chacun avec sa propre approche.
Exactement. Et c'est justement ce que décortique Lassen Haddad dans son article L'Afrique du Nord et le Sahel, naviguer des alliances complexes en pleine mutation régionale.
Ah oui, j'ai lu ça.
Il nous offre un regard précieux sur les dynamiques actuelles, notamment à travers le prisme de la jeunesse, puisque l'article est publié sur le portail Opinion des jeunes.
Intéressant. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Lassen Haddad n'est pas un simple observateur. C'est un consultant international en développement social,
Oui.
vice-président du Sénat marocain et coprésident de la commission parlementaire mixte Maroc-UE. Autant dire qu'il a une vision approfondie de ces enjeux.
Tout à fait. Et son analyse met en lumière les différentes stratégies des pays d'Afrique du Nord pour s'engager au Sahel. Si on prend le Maroc, sous le roi Mohamed VI, on observe une politique très active de renforcement des liens avec les pays sahéliens.
Oui, et ça se traduit concrètement par des projets d'infrastructure, l'accès aux ports marocains pour les pays enclavés. On sent une volonté de créer des partenariats économiques solides, avec l'idée que le développement peut être un rempart contre le terrorisme et le crime organisé.
C'est une approche intéressante. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Certains critiquent le manque de transparence de ces investissements et s'interrogent sur les véritables motivations du Maroc. S'agit-il d'un réel engagement pour le développement du Sahel ou d'une stratégie pour étendre son influence politique et économique?
C'est une question légitime. Et d'ailleurs, comment cette approche marocaine se compare-t-elle à celle de l'Algérie, par exemple?
L'Algérie a une approche, disons, plus traditionnelle, centrée sur la sécurité et la coopération militaire. On se souvient de son rôle important dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Mais elle a aussi été critiquée pour son soutien à certains groupes armés, ce qui a compliqué ses relations avec Bamako.
Oui, et il y a aussi la question des expulsions de migrants subsahariens, qui a créé des tensions avec le Niger et provoqué des condamnations de l'ONU et de Human Rights Watch. On a l'impression que l'Algérie a du mal à trouver sa place dans ce nouveau contexte régional.
C'est exact. L'article de Lassen Haddad souligne d'ailleurs que l'Algérie manque de la profondeur historique et de l'influence culturelle du Maroc dans la région. Il pointe aussi du doigt la faiblesse du secteur privé algérien, qui limite sa capacité à investir et à créer des liens économiques durables avec le Sahel.
Alors que le Maroc, avec son économie plus diversifiée et son secteur privé dynamique, semble mieux armé pour s'engager dans des partenariats économiques gagnant-gagnant.
C'est l'argument de Haddad en tout cas. Il met en avant le dynamisme des entreprises marocaines, leur capacité à innover et à s'adapter aux besoins du marché sahélien.
Mais est-ce que cela signifie que le modèle marocain est forcément le meilleur? N'y a-t-il pas des risques à trop miser sur l'économie au détriment d'autres aspects, comme le respect des droits humains ou la gouvernance démocratique?
Ce sont des questions cruciales. Et c'est là que l'analyse de Haddad devient vraiment intéressante. Il ne se contente pas de vanter les mérites du Maroc. Il met aussi en lumière les limites de son approche. Il appelle à une plus grande transparence dans les investissements, un engagement plus fort pour le développement durable et à une meilleure prise en compte des aspirations des populations locales.
D'accord, donc il ne s'agit pas d'opposer un modèle à un autre, mais plutôt d'identifier les forces et les faiblesses de chaque approche pour construire une coopération régionale plus efficace et plus équitable.
Exactement. Et c'est là que la notion de politique de voisinage devient essentielle. Haddad critique la politique algérienne qu'il juge peu constructive, notamment en raison de la fermeture des frontières avec le Maroc et de l'utilisation du gaz comme outil politique.
Oui, on a l'impression que l'Algérie se replie sur elle-même, alors que le Maroc cherche à tisser des liens et à jouer un rôle moteur dans la région. Mais est-ce que cette posture plus ouverte du Maroc ne masque pas une volonté d'hégémonie, une tentative de s'imposer comme le leader incontesté de l'Afrique du Nord?
C'est une question que beaucoup se posent. Et il est difficile d'y répondre avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que la rivalité entre le Maroc et l'Algérie pèse lourdement sur la coopération régionale. Et tant que ce conflit ne sera pas résolu, il sera difficile d'avancer vers une véritable intégration de l'Afrique du Nord.
Et pendant ce temps, la Libye et la Tunisie tentent de trouver leur place dans ce jeu d'influence complexe.
Tout à fait. La Libye, après des années de chaos, cherche à retrouver une stabilité politique et à jouer un rôle plus actif dans la région. Quant à la Tunisie, elle privilégie une approche plus discrète, axée sur la coopération économique et le dialogue.
Mais elle n'est pas pour autant à l'abri des critiques, notamment en ce qui concerne sa gestion des migrants subsahariens.
C'est vrai. La Tunisie a été accusée de racisme et de discrimination, ce qui a terni son image et compliqué ses relations avec certains pays africains.
On voit que la question migratoire est un enjeu majeur pour toute la région. Elle est au cœur des tensions, des conflits. Et elle met à l'épreuve la solidarité entre les pays d'Afrique du Nord et du Sahel.
Absolument. Et c'est un sujet que l'on ne peut pas ignorer si l'on veut comprendre les dynamiques actuelles et les enjeux futurs de cette relation complexe entre l'Afrique du Nord et le Sahel.
Avant de plonger plus en profondeur dans ces questions, je propose qu'on prenne un instant pour rappeler à nos auditeurs les sources qui nourrissent notre analyse aujourd'hui.
Bien sûr. Notre deep dive s'appuie sur l'article de l'Assénadad, que nous avons déjà évoqué, ainsi que sur des rapports d'organisations internationales comme l'ONU et Human Rights Watch, des analyses d'experts de la région et des témoignages de personnes directement touchées par ces enjeux.
L'idée est de vous offrir une vision la plus complète et la plus nuancée possible, en croisant les regards et en confrontant les points de vue. Restez avec nous, on revient tout de suite.
Reprenons notre analyse. En nous intéressant à un aspect crucial de cette relation entre l'Afrique du Nord et le Sahel. La question du terrorisme. C'est une menace omniprésente qui pèse sur la stabilité et le développement de toute la région.
Absolument. Et face à ce défi, on observe des approches différentes. Le Maroc, par exemple, a fait de la lutte antiterroriste une priorité, en misant sur une stratégie globale.
Oui, le Maroc a compris que la lutte contre le terrorisme ne peut se limiter à une simple réponse militaire. Il faut s'attaquer aux racines du problème, en favorisant le développement économique, en promouvant l'éducation, en luttant contre la marginalisation et l'exclusion.
C'est ce qu'on appelle une approche multidimensionnelle, qui combine la sécurité, le développement et la coopération internationale. On voit que le Maroc investit massivement dans la formation des imams, la construction d'écoles et d'hôpitaux, la création d'emplois.
Exactement. Et cette stratégie semble porter ses fruits. Le Maroc est parvenu à contenir la menace terroriste sur son territoire. Il est devenu un partenaire clé pour les pays du Sahel dans la lutte contre les groupes djihadistes.
D'ailleurs, plusieurs pays de la région, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ont signé des accords de coopération sécuritaire avec le Maroc. Ils voient en lui un allié fiable et efficace dans ce combat.
Oui, et c'est là que l'on peut observer un contraste avec l'Algérie. Malgré sa puissance militaire, l'Algérie semble plus en difficulté face à la menace terroriste.
C'est vrai, on a vu ces dernières années une recrudescence des attaques terroristes dans le nord du Mali, aux frontières avec l'Algérie. Et certains experts estiment que l'Algérie n'a pas toujours été un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme.
L'article de l'Assénadad qu'on a analysé évoque d'ailleurs des accusations de soutien à certains groupes armés au Mali, ce qui a évidemment créé des tensions avec Bamako et a terni l'image de l'Algérie dans la région.
On comprend mieux pourquoi l'Algérie semble perdre du terrain face au Maroc dans cette bataille pour l'influence au Sahel. Le Maroc a su développer une approche plus globale, plus en phase avec les besoins des pays de la région.
C'est une analyse qu'on peut faire, en effet, mais il faut aussi souligner que la situation reste complexe et que chaque pays a ses propres contraintes et ses propres intérêts. L'Algérie a toujours mis en avant sa souveraineté et sa non-ingérence dans les affaires intérieures de ses voisins.
Oui, c'est une position de principe qui peut parfois se heurter à la réalité du terrain. On l'a vu avec la crise malienne où l'Algérie a été critiquée pour son manque d'implication.
C'est vrai. Mais il faut aussi comprendre que l'Algérie a elle-même été victime du terrorisme dans les années 90. Elle a une longue expérience de la lutte antiterroriste et elle a développé des méthodes qui lui sont propres.
Oui, et on ne peut pas nier que l'Algérie a joué un rôle important dans la stabilisation de la région, notamment en accueillant des millions de réfugiés du Mali et du Niger.
Tout à fait. Il est important de ne pas tomber dans des jugements simplistes. La lutte contre le terrorisme est un défi colossal qui exige une coopération étroite entre tous les pays de la région.
Et cette coopération est d'autant plus importante que la menace terroriste évolue. On voit aujourd'hui des groupes djihadistes qui s'implantent dans des zones de plus en plus vastes, qui recrutent des jeunes désœuvrés, qui profitent de la pauvreté et de la corruption.
Absolument. La lutte contre le terrorisme doit s'inscrire dans une vision à long terme, qui prenne en compte les facteurs de déstabilisation, les inégalités sociales, le manque d'opportunités économiques.
Et qui implique tous les acteurs, les États, les organisations internationales, la société civile, les populations locales.
Oui, c'est un combat collectif qui exige une mobilisation générale. Il faut sortir des logiques de compétition et de rivalité pour construire une véritable solidarité régionale.
En parlant de solidarité, Il y a un autre défi majeur qui pèse sur les relations entre l'Afrique du Nord et le Sahel.
L'accueil migratoire.
Ah oui, c'est un sujet brûlant, qui cristallise les tensions, les incompréhensions. On voit des flux migratoires de plus en plus importants, des drames humains, des politiques de fermeture et de répression.
Et cette question migratoire est souvent instrumentalisée par les gouvernements, qui l'utilisent comme un levier politique ou un moyen de pression.
C'est vrai, on a vu l'Algérie expulser des milliers de migrants subsahariens vers le Niger dans des conditions inhumaines. Et on a vu la Tunisie durcir sa politique migratoire, suscitant des accusations de racisme et de discrimination.
Ces incidents ont évidemment terni l'image de l'Afrique du Nord et ont renforcé le sentiment de rejet et de méfiance chez les populations du Sahel.
Il est important de rappeler que la migration est un phénomène complexe, qui a des causes multiples. La pauvreté, les conflits, le changement climatique, la recherche d'un avenir meilleur. Autant de raisons qui poussent des milliers de personnes à quitter leur pays au péril de leur vie.
Et face à ce drame humain, on a l'impression que les pays d'Afrique du Nord se replient sur eux-mêmes, en construisant les murs, en renforçant les contrôles aux frontières, en criminalisant les migrants.
C'est une réaction compréhensible, mais elle est contre-productive. La fermeture des frontières ne fait qu'aggraver la situation, en poussant les migrants vers des routes plus dangereuses, en enrichissant les passeurs et les trafiquants d'êtres humains.
Et en nourrissant le sentiment d'injustice et de frustration chez les populations du Sahel qui se sentent rejetées par leurs voisins du Nord.
Exactement. La solution ne peut pas être uniquement sécuritaire. Il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration, en favorisant le développement économique et social des pays du Sahel, en créant des opportunités d'emploi, en investissant dans l'éducation et la formation.
Et en changeant le regard que l'on porte sur les migrants, en les considérant non pas comme une menace, mais comme une richesse, une force vive qui peut contribuer au développement de la région.
Oui, il faut promouvoir une vision positive de la migration, en reconnaissant l'apport des migrants à l'économie, à la culture, à la société.
Et en créant des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, en favorisant les échanges, la coopération, la solidarité.
Tout à fait. La question migratoire est un défi. Mais elle peut aussi être une opportunité. Une opportunité de construire une relation plus juste, plus équilibrée, plus humaine, entre l'Afrique du Nord et le Sahel.
Et c'est là que le rôle des organisations internationales est crucial. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour accompagner les pays de la région dans la mise en place de politiques migratoires responsables et solidaires.
Oui, il faut une approche globale, coordonnée, qui prenne en compte les intérêts de tous les acteurs et qui mette l'accent sur le respect des droits humains, la protection des migrants, la lutte contre les discriminations.
Alors, comment concilier ces différentes approches? Comment trouver un équilibre entre la sécurité, le développement et la solidarité? C'est la question qu'on va explorer dans la suite de notre Deep Dive. Restez avec nous, on revient tout de suite.
On a beaucoup parlé du Maroc et de l'Algérie. Mais il ne faut pas oublier les autres acteurs de cette relation complexe entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Qu'en est-il de la Libye?
Ah oui, la Libye. Un pays au potentiel immense, mais qui reste fragile après des années de chaos. Quel rôle peut-elle jouer dans ce contexte régional?
C'est une question difficile. La Libye est encore en phase de reconstruction, politique et institutionnelle. Mais elle dispose d'atouts importants, des ressources naturelles, une position géographique stratégique et une histoire commune avec les pays du Sahel.
Oui, on se souvient de l'influence qu'avait Kadhafi dans la région. Avec sa politique panafricaine et ses investissements massifs au Sahel, est-ce que la Libye peut retrouver ce rôle de leader?
C'est difficile à dire. La situation politique reste très volatile, avec des divisions internes et des ingérences étrangères. Mais il y a une volonté de la part des nouvelles autorités libyennes de renouer avec les pays du Sahel, notamment sur le plan économique et sécuritaire.
Par exemple, la Libye a récemment participé à des opérations conjointes avec le Niger et le Tchad pour lutter contre les groupes djihadistes et les trafics transfrontaliers.
Exactement. La Libye a un intérêt direct à la stabilisation du Sahel, car l'instabilité et l'insécurité dans cette région ont des répercussions directes sur sa propre sécurité.
Et du côté de la Tunisie, quel est son rôle dans ce jeu d'alliances complexes?
La Tunisie a une approche plus discrète que le Maroc ou l'Algérie. Elle privilégie la coopération économique et le dialogue politique. Elle a aussi mis en place des programmes de développement et de formation au profit des pays du Sahel.
Oui, on perçoit souvent la Tunisie comme un pays plus stable et plus démocratique que ses voisins. Mais elle a aussi été confrontée à des défis importants, notamment sur le plan économique et social.
C'est vrai. La Tunisie a connu une transition démocratique difficile après la révolution de 2011. Et elle a été touchée par la crise économique mondiale et par les attentats terroristes qui ont frappé le pays ces dernières années.
Malgré ces difficultés, la Tunisie reste un partenaire important pour les pays du Sahel. Elle partage avec eux une histoire commune, une culture méditerranéenne et une volonté de coopération et de solidarité.
Et il ne faut pas oublier que la Tunisie est aussi un pays de transit pour les migrants subsahariens qui cherchent à rejoindre l'Europe. Elle est donc directement confrontée au défi de la migration et au drame humain qui se joue aux portes de l'Europe.
On voit bien que chaque pays d'Afrique du Nord a sa propre histoire, ses propres intérêts et ses propres défis à relever dans sa relation avec le Sahel. Mais au-delà de ses spécificités, il a des enjeux communs qui nécessitent une coopération régionale renforcée.
Absolument. La lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires, le développement économique et social, la lutte contre le changement climatique, autant de défis qui ne peuvent être relevés qu'ensemble.
Et c'est là que l'analyse de Lassen Haddad prend tout son sens. Il appelle à une nouvelle vision de la coopération régionale, basée sur la solidarité, la confiance mutuelle et le respect des intérêts de chacun.
Oui, il faut sortir des logiques de compétition et de rivalité, qui ont trop souvent marqué les relations entre les pays d'Afrique du Nord. Il faut construire une véritable communauté de destin, en s'appuyant sur les liens historiques, culturels et économiques qui unissent ces pays.
C'est un message d'espoir, qui nous invite à dépasser les clivages et à construire un avenir commun pour l'Afrique du Nord et le Sahel.
Et c'est un message qui s'adresse à tous. Aux gouvernements, aux organisations internationales, à la société civile, aux citoyens, chacun a un rôle à jouer pour faire de cette vision une réalité.
Merci beaucoup pour ces éclairages. C'était passionnant de plonger avec vous au cœur de ces relations complexes entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? La coopération et la solidarité sont-elles les clés d'un avenir plus stable et prospère pour cette région ? On vous laisse méditer sur cette question. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.